les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. S'il existe un patrimoine, c'est qu'il y a une famille. S'il y a un patrimoine culturel, c'est que plus tard, il y aura une humanité. Le patrimoine, sa conservation, ça ne concerne pas que la France. Le monde entier est un patrimoine, la planète est notre patrimoine. Pour la beauté des paysages et des sites, à Soissons comme Venise, et parce que les œuvres d'art font partie de la vie économique, il faut mobiliser la conscience de l'humanité. Interdire et empêcher l'exportation, l'importation, le transfert, la propriété illicite des biens culturels. Lutter contre le pillage, la contrebande. Protéger les biens culturels, même en cas de conflits armés. Tel est le rôle de l'UNESCO. Tel était le sujet de la conférence donnée par René Maheu, alors directeur général de l'UNESCO, conférence diffusée pour la première fois sur France Culture le 9 mai 1969.
Je vais avoir le grand plaisir de vous entretenir d'un sujet qui est, je crois, une des grandes dimensions de la coopération internationale et qui, d'ailleurs, a son principe dans l'acte constitutif, la constitution même de l'UNESCO. Je veux parler de la préservation du patrimoine culturel de l'humanité. Je voudrais vous parler de la préservation des sites et des monuments historiques comme un cas particulier de la préservation du patrimoine culturel de l'humanité. Je me permets de vous citer l'organisation Aide au maintien, à l'avancement et à la diffusion du savoir, en veillant à la conservation et protection du patrimoine universel de livres, d'œuvres d'art et d'autres monuments d'intérêt historique ou scientifique, et en recommandant aux peuples intéressés des conventions internationales à cet effet. La Constitution, dès le début, indique un moyen auquel les auteurs de la Constitution attachaient une importance particulière, qui est ce que nous appelons l'action normative. C'est-à-dire la fonction qui consiste à élaborer des textes qui formulent des normes, des règles, des critères de valeur internationale et qui, par adhésion des États, deviennent lois, normes, critères nationaux. Et les recommandations. La différence entre les conventions et les recommandations, c'est comme vous savez que les conventions, une fois qu'elles sont ratifiées par le Parlement d'un pays, deviennent lois nationales et par conséquent ont valeur impérative. Tandis que les recommandations n'ont que valeur optative. À l'heure actuelle, l'UNESCO a élaboré une convention dans ce domaine. Une seule. Elle est en train d'en préparer une seconde. Mais cette convention est extrêmement originale et elle a aussi cette particularité qu'elle a déjà été mise au test, à l'épreuve des événements. C'est la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, qui a été adoptée en 1954 par une conférence spéciale convoquée sous les auspices de l'UNESCO à La Haye. Cette convention est à l'heure actuelle ratifiée par 58 pays. Quel est son but? C'est, comme son titre l'indique, de prévoir certaines mesures qui s'imposent aux belligérants et même dans le cas de guerre civile, qui s'imposent aux parties au conflit pour la protection des biens culturels. La signification morale de cette convention est encore plus importante, à mon sens, que son efficacité pratique, qui, bien entendu, est hypothétique. C'est la première fois que la communauté internationale reconnaît qu'un bien culturel doit être protégé, même en temps de guerre, et qu'ils doivent être protégés, non seulement par ceux auxquels ils appartiennent, mais par ceux qui sont éventuellement les ennemis. Et c'est ainsi qu'en 1967 a éclaté, comme vous savez, au Moyen-Orient, un conflit entre Israël et ses voisins arabes. Or, il se trouvait que à la fois Israël et les voisins arabes d'Israël, partis au conflit, étaient tous partis à la convention. J'ai pensé que si une convention n'était pas appliquée, alors elle perdait toute espèce de signification. Si on n'essayait pas de l'appliquer, même si on échouait, il fallait essayer. Ça n'a pas été facile. Mais avec l'appui du conseil exécutif, j'ai pu négocier avec les belligérants et finalement la convention a été appliquée. La convention prévoit que dans les pays en guerre, on établit des observateurs qui sont des commissaires et qui représentent la partie adverse. Et c'est ainsi que vous avez en Israël un commissaire qui a été accepté à la fois par Israël et par les États arabes, et qui est une personnalité hollandaise très distinguée, M. Reining, ancien directeur général des relations culturelles. Et vous avez pour les États arabes, ils se sont mis d'accord, une personnalité suisse, un colonel suisse, le colonel Brunner, qui joue le même rôle de vérification des conditions stipulées par la Convention pour la protection des biens culturels. C'est maintenant la première fois que les belligérants acceptent le commencement, du moins, d'un service international de protection. Nous sommes en train de préparer une autre convention que je dois soumettre à la prochaine session de la Conférence générale en 1970 sur un sujet tout à fait différent, mais très très important pour le sujet qui nous occupe, à savoir un projet de convention sur les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'exportation, l'importation et le transfert de propriétés illicites de biens culturels. C'est un projet de convention dont l'idée a été proposée à la conférence qu'il a acceptée, conférence générale de l'UNESCO, par des délégations latino-américaines, la délégation du Pérou, la délégation du Mexique. Et en effet, il me suffit de prononcer ces deux noms, pour en citer bien d'autres, pour que immédiatement vienne à votre esprit ce que l'on peut appeler un véritable pillage systématique, une contrebande perpétuelle par laquelle les trésors du patrimoine culturel de certains pays est en train de se dissiper. Il y a trois recommandations qui ont été élaborées par l'UNESCO. Je me borne à citer les titres, qui sont d'ailleurs très significatifs. Une recommandation de 1956 sur les principes à appliquer en matière de fouilles archéologiques. Vous savez que une des plus grandes causes de destruction du patrimoine culturel, c'est des fouilles clandestines, ou bien des fouilles d'amateurs, ou des fouilles sans aucune espèce de préparation professionnelle et scientifique. Autre recommandation, celle de 1962, sur la sauvegarde de la beauté et du caractère des paysages et des sites. C'est la première fois que dans un texte international apparaissent des concepts qui pourrait sembler subjectif comme beauté et caractère des paysages et des sites. Et je trouve que ça aussi, c'est la reconnaissance d'une évolution des esprits. Et enfin, une recommandation très importante au point de vue pratique sur la préservation des biens culturels mis en péril par des travaux publics ou privés, qui a été adoptée en 68, au mois de novembre dernier. Il faut bien reconnaître que les barrages, les routes, les mines, l'urbanisation, c'est peut-être une des plus grandes causes de destruction du passé. L'humanité, certes, doit avoir une grande impulsion à ces travaux publics, mais il faut que ces travaux publics prennent un certain nombre de précautions. Et sur ce point aussi, l'UNESCO a adopté quelques règles dont nous espérons qu'elles seront de plus en plus, elles viennent d'être adoptées, qu'elles seront de plus en plus appliquées. Voilà donc la première action, premier type d'action caractéristique d'une organisation internationale, établir des normes et des principes et des critères à valeur, à vocation en tout cas universelle. Et un autre type d'action, c'est ce que j'appellerais la promotion des idées. Elle est indispensable d'ailleurs pour que la première se réalise. L'UNESCO s'est attachée à promouvoir cette idée de la préservation des sites et des monuments. Remarquez que à ce point de vue-là, la préservation des œuvres d'art, c'était acquis, c'était déjà fait. Depuis le XVIe siècle, depuis la Renaissance, dans le monde occidental, la conscience de la valeur précieuse de l'œuvre d'art est acquise, et d'où les collections qui sont devenues les musées. Mais qu'un monument soit autre chose qu'une ruine qui nous émeut par sa dégradation, mais que ce soit parfois une personne qu'il faille défendre, que le site lui-même soit une valeur et une réalité, ce n'était pas des idées courantes, par exemple, au début du siècle, ni même il y a une trentaine d'années. Et je crois que l'UNESCO a fait, ce point de vue-là, une œuvre valable. C'est ainsi que, vers 63-64, elle a lancé une campagne internationale pour la préservation des monuments et des sites, action purement psychologique. L'UNESCO, qui avait créé en 1945 le Conseil international des musées, 20 ans plus tard, voilà l'évolution, a favorisé la création d'un comité international des monuments et des sites, qui est, si vous voulez, l'extension de la notion de musée à la nature, à la réalité qui est éparse dans le monde. Le comité international ICOMOS a été créé en 1965 à Cracovie, va tenir, je crois, sa prochaine Assemblée générale cette année à Oxford, qui a déjà un organe qui est l'équivalent de muséum, qui s'appelle Monumentum. Troisième type d'action, premièrement normative, deuxièmement promotion intellectuelle, troisièmement l'assistance technique. C'est-à-dire, ici, nous entrons dans l'action concrète. Il faut que les idées s'incarnent pour être agissantes. Et il y a des besoins concrets qui requièrent une action pratique. Et les États nous ont dit, bon, très bien, c'est parfait de nous dire ce que nous devons faire. Mais si vous nous aidiez un petit peu, ça serait encore mieux. En nous montrant comment faire pour satisfaire à vos normes, d'une part, et comment faire pour satisfaire aux besoins et aux désirs des peuples que vous avez vous-même stimulés. C'est ce qu'on appelle l'assistance technique, qui consiste de coopération internationale, qui consiste à mettre à la disposition, sur la demande, des experts et des bourses, les deux étant complémentaires. L'expert, c'est un spécialiste étranger qui va dans un pays qui a exprimé le désir de le recevoir pour, d'une part, donner des conseils, parfois diriger des travaux et surtout former en même temps les spécialistes nationaux qui rendront inutile ultérieurement le recours à un spécialiste étranger. Et c'est pour ça que les bourses sont le complément de cette action, parce que les bourses consistent à permettre à un spécialiste du pays d'aller se former à l'étranger, puis de revenir sous la conduite de l'expert étranger chez lui, et ensuite de le remplacer. Alors, la première fois que l'UNESCO a procédé à cette assistance technique dans le domaine qui nous intéresse, la préservation du patrimoine culturel, c'est en 1950 au Pérou, à la suite du terrible tremblement de terre qui avait ravagé l'admirable ville de Cusco. Prenons le dernier exercice. En 67-68, nous avons dépensé, à ce point de vue-là, $560,000. Tout ce qui est plus remarquable, c'est que nous avons aidé, nous avons envoyé des experts dans 29 pays. Nous en avons envoyé 98 et nous avons donné 73 bourses. Ce sont des chiffres qui, si réduits qu'ils paraissent au premier abord, sont en réalité très élevés. Parce qu'il y a encore moins d'experts que d'argent. C'est ce qui a amené l'UNESCO à créer un centre international de recherche et de formation, qui s'appelle Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels, qui a été créé à Rome en 1958. Il est dirigé par l'éminent spécialiste anglais, M. Plenderlith. À l'heure actuelle, 45 pays ont adhéré à ce centre. Il a inventé de nouvelles méthodes, de nouvelles techniques, et également pour former. Outre ce centre international, nous avons des centres régionaux ou nationaux. Par exemple, je citerai celui de Mexico, que j'ai inauguré en 1967, celui de Delhi, qui sont très très remarquables. Celui de Delhi est le premier d'Asie, en dehors du Japon. L'UNESCO a été amené à concevoir un autre type d'action qui ne figure absolument pas dans la Constitution, et qui montre combien ces idées ont rencontré une grande résonance. C'est ce que nous appelons les campagnes internationales de solidarité. L'exemple le plus célèbre, c'est l'exemple de la campagne pour la sauvegarde des monuments de Nubie. Vous rappelez l'émotion qui saisit le monde lorsqu'on s'est aperçu que la construction du haut barrage d'Assouan allait avoir pour conséquence d'inonder une énorme étendue le lac de retenue du barrage d'Assouan est une fois et demie le lac de Genève. Et cet énorme lac artificiel, et naturellement, elle devait submerger des sites archéologiques et submerger des monuments, dont certains très précieux. Le gouvernement de la République arabe unie et le gouvernement du Soudan, car le lac va au-delà de la frontière soudanaise, ont fait appel à l'UNESCO. L'UNESCO a répondu en prenant des risques énormes. Il est probable que si elle avait mieux connu les difficultés, si elle avait mieux réfléchi, elle aurait répondu non. Elle n'a pas réfléchi, elle a eu raison dans ce cas particulier. Et c'est ainsi que le 8 mars 1960, mon prédécesseur, M. Vittorino Veronese, a lancé un appel pour préserver les antiquités de Nubie. Ça a été le début d'une véritable aventure. En 8 ans, nous avons organisé 40 missions de 20 pays. Nous avons troisièmement transporté 20 monuments. Tous les monuments ont été sauvés. À l'aide d'abord du gouvernement égyptien qui a fait un effort extraordinaire. À l'aide aussi de fonds ou de concours d'origine extérieure à l'appel de l'UNESCO et quelquefois par des accords bilatéraux dans le cadre de la campagne internationale de l'UNESCO. Deux exemples, par exemple le grand temple de Kalabcha a été sauvé par les Allemands qui l'ont déplacé. C'est une opération qui a coûté 3 600 000 dollars, ce qui n'est pas rien. Et le temple d'Amada a été sauvé par les Français au prix de 1 000 000 $ et par un moyen très ingénieux, comme vous savez, on a transporté le temple sur des rails et que l'on, il était dans une caisse, un petit temple, on l'a mis dans une caisse remplie de sable et puis on a transporté la caisse et il, pendant un kilomètre et demi, et ça a duré 1 an parce que il fallait à chaque instant vérifier que les variations de niveau ne dépassaient pas 1 mm. Et enfin, l'opération la plus spectaculaire, bien sûr, ça a été la protection in situ d'Abou Simbel. Ce projet grandiose, que je pense peut-être Ramsès II lui-même aurait trouvé à sa mesure, pour vous donner là aussi un indicateur grossièrement financier, a coûté 36 millions de dollars. Sur ces 36 millions de dollars, 20 millions et demi ont été fournis par 50 pays à l'appel de l'UNESCO. Le reste étant fourni par la République arabe unie. Parmi ces contributions, je dois citer celles des États-Unis qui ont fourni le gouvernement l'équivalent de 12 millions de dollars et le public américain 2 millions de dollars, ce qui est une proportion vraiment très considérable, mais je voudrais aussi remercier la France du 1 000 000 $ qu'elle a fourni pour cette œuvre considérable. Et c'est ce qui a fait qu'en 4 ans et demi, avec en avance sur l'horaire, d'ailleurs. En 4 ans et demi, les travaux ont été menés à bien. Et le 22 septembre 1968, avec le distingué président du comité exécutif de la campagne nubique, et qui était présidé par M. Carnero, qui a été l'âme de l'entreprise sur le plan de l'organisation de la conférence générale, nous avions, lui et moi, l'immense plaisir, aux côtés de notre ami M. Okacha, le ministre de la Culture de la RAU, d'inaugurer l'ensemble d'Abou Simbel complètement reconstruit. Ça a été une merveilleuse aventure, ça a été un extraordinaire succès. Il reste cependant quelque chose encore à faire dans cette campagne de Nubie, c'est sauver Philé, la perle de l'Égypte, et qui déjà avait été submergé en partie par le premier barrage d'Assouan fait par les Anglais en 1904. Et il se trouve que c'est le seul monument qui, à l'heure actuelle, n'est pas encore sauvé. J'espère que Philé, pour lequel j'ai renouvelé en novembre, à la demande de la Conférence générale, un appel solennel à la solidarité internationale, que Philé aussi pourra être sauvé et que les travaux pourront commencer le 1er janvier 1970. Il s'agit d'un projet moins important que Abou Simbel, mais tout de même considérable, de l'ordre de plus de 12 millions, pour lequel l'UNESCO voudrait réunir au moins 6 millions, peut-être 7 millions de dollars. Voilà un exemple de campagne. Sans vouloir abuser de votre patience, il faut tout de même que je vous donne un autre exemple qui est celui qui, à l'heure actuelle, retient particulièrement l'attention de mes collaborateurs et de moi-même, c'est la campagne pour Florence et Venise, qui a été lancée, là aussi, par une décision de la Conférence générale, et j'ai lancé un appel le 2 décembre 1966. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'honneur de faire appel au monde pour sauver des villes aussi prestigieuses que Florence et Venise. Que s'est-il passé? Pour Florence, il y a eu des inondations exceptionnelles, catastrophiques, qui se sont produites le 4 novembre 1966. Et là, il y a un travail de restauration. C'est un travail auquel les Florentins et les Italiens se sont mis avec énormément de courage, avec une virtuosité exceptionnelle, mais c'est un travail qui sera très long. Parce qu'en matière de restauration, même si vous avez le nombre de personnes, et même si vous avez l'argent et le matériel, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas acheter, qui est le temps. Mais la grosse affaire, c'est Venise. D'abord parce qu'à Venise, il ne s'agit pas d'une inondation qui a duré à Florence quelques heures, et dont le flot est parti. Mais il s'agit d'une inondation permanente, même beaucoup plus que de l'inondation, car Venise est menacée à la fois par les eaux, bien sûr, et elle est menacée par la mer, elle est menacée par la lagune, mais elle est menacée aussi par l'air, la pollution de l'air. Par exemple, le marbre, comme au Parthénon, mais beaucoup plus qu'au Parthénon, est malade. Et plus le marbre est précieux, et plus il est contaminé par la pollution de l'air. Venise aussi est menacée par l'évolution interne de la ville qui lentement meurt. Elle meurt par ce que la vie se retire. Elle se retire vers la terre ferme et vous avez à Venise une population à l'heure actuelle d'enfants et de vieillards avec une population adulte qui va diminuant. Or, on ne sauve pas une ville sans ses habitants. Mais pour sauver une ville et une ville qui a été la vie même, Venise, il faut qu'il y ait des Vénitiens. Et voilà la tâche extraordinaire que l'Italie a entreprise et pour laquelle l'Italie nous a fait l'honneur de nous demander de l'aider. Il y a trois tâches que l'UNESCO a accepté d'accomplir aux côtés des autorités italiennes. La première, c'est une tâche de restauration. Et d'abord, de faire un inventaire. Songez que la surface de fresques à Venise est aussi considérable que la surface d'étoiles. Et elles sont beaucoup plus menacées, sont menacées par l'humidité. Vous voyez l'humidité qui monte et par capillarité qui est en train de détruire des fresques. Il y en a que, en quelques années, sont devenues fantomatiques, invisibles. Donc il y a une grande entreprise de restauration de monuments et d'œuvres d'art. Il y a ensuite, en même temps, la préservation de la ville qui s'enfonce, qui est menacée de détérioration, de dégradation grave, peut-être irrémédiable. Et là c'est un problème physique qui exige des études océanographiques, hydrologiques, géologiques, chimiques, extrêmement complexes et qui sont fort heureusement, pour la première maintenant, entreprises d'une manière systématique. Et enfin, il y a ce que je vous disais, il y a l'animation culturelle. On ne sauve pas, d'abord, ça n'a aucun sens de sauver une ville morte quand cette ville a été l'incarnation même de la vie. Je ne conçois pas Venise, musée, momie. Car Venise a été la vie, la plus grande exubérance européenne. Donc il faut entreprendre l'animation culturelle. Il faut que Venise redevienne une métropole culturelle qui vive, et où les gens aiment venir, et les jeunes, et où ils aiment travailler, et où ce soit un centre de rayonnement culturel, et pas simplement de tourisme saisonnier, comme c'est à l'heure actuelle. Eh bien voilà les trois grandes entreprises, beaucoup plus complexes en fait qu'à Abu Simbel. Car à Abu Simbel, on a sauvé des pierres dans le désert. Ici, nous voulons sauver la vie. Alors, restauration, protection physique et animation culturelle. Je dois dire que les autorités italiennes et vénitiennes on prit les décisions nécessaires qui s'imposent. Il y a d'abord maintenant une prise de conscience nationale. Le gouvernement italien a inscrit dans le plan quadriennal de 1974 la sauvegarde de Venise. C'est la première fois qu'en Italie on donne une option à une ville. Et quand vous saurez qu'au Parlement italien, ce sont les gens du Mezzogiorno, c'est-à-dire du Midi, partie relativement moins développée de l'Italie, qui ont proposé de donner une option nationale en faveur de la sauvegarde de Venise, vous voyez que c'est devenu une affaire de la nation. Et le gouvernement, sur la base de ce mouvement, a organisé un comité de coordination qui est rattaché au plan, auprès duquel j'ai un représentant, et qui va entreprendre l'affaire. Je pense être en mesure, sur la base de cet effort national, d'articuler un mouvement de solidarité internationale. Jamais la solidarité internationale ne peut dispenser l'effort national. Et dans le cas de la Nubie, ne croyez pas que ce que nous avons fait seul. Ça a d'abord été les Égyptiens ou les Soudanais qui ont fait une grande partie du travail. Simplement, nous avons considérablement aidé. Dans le cas de l'Italie, c'est la détermination italienne qui va permettre à la solidarité internationale d'apporter son concours. Voilà un exemple d'action que notre Constitution ne prévoyait pas, les campagnes. Mais en vous en racontant, vous avez bien pu voir que ça a un côté aventureux. Moi-même, si vous me le demandiez, je ne recommencerai pas à Boussinbert. C'est une affaire qui avait eu trop de risques. On l'a réussi très bien. Mais la loi des grands nombres est là pour nous montrer que les chances, il ne faut pas abuser du hasard. Nous allons voir avec Venise. Mais nous avons été amenés à penser que l'on ne pouvait pas, quand il y avait des demandes, lancer des campagnes. Songez qu'à l'heure actuelle, j'ai une trentaine de demandes de pays qui me disent « Mais puisque vous avez sauvé Abu Simbel, sauvez-nous nous aussi. » Le Pakistan demande que je sauve Mohenjo-Daro sur l'Indus. L'Indonésie demande que je sauve Borobudur. Le Pérou demande qu'on s'intéresse à Machu Picchu. Nous ne pouvons pas chaque fois, lancer un appel et une campagne exceptionnelle. Et c'est ce qui nous a amené à la dernière forme dont je voudrais vous parler, d'action. Nous avons été amenés à concevoir une action normale, ordinaire, régulière, qui dispense des recours extraordinaires, exceptionnels, à des entreprises comme celle que je viens de vous citer. C'est ce que nous appelons le tourisme culturel, qui a été reconnu par le Conseil exécutif en 1966, réunion historique à Budapest, comme un des programmes essentiels de l'UNESCO. En quoi ça consiste? Ça consiste d'abord à reconnaître que le tourisme existe. C'est un des phénomènes les plus considérables du monde moderne. Deuxièmement, une des motivations du tourisme, c'est tout de même de voir certains objets de caractère culturel. L'accès du public, à condition qu'il y ait certaines précautions qui soient prises, à l'œuvre d'art, d'une part est bonne pour le tourisme proprement dit, et deuxièmement est bonne pour l'œuvre d'art et le monument, car ça lui permet de jouer son rôle, de transmettre les messages culturels dont cette œuvre est riche. Et puisque je parle de richesse, reconnaissons que le tourisme est une des plus grandes industries modernes. Reconnaissons aussi qu'il se trouve qu'un très grand nombre de pays en voie de développement, qui n'ont pas certaines richesses économiques qu'ont les pays très industrialisés, sont au contraire extraordinairement riches en biens culturels. D'où l'idée que nous fassions comprendre au gouvernement, d'abord que dans leur patrimoine culturel, ils ont un trésor économique qui peut être une source de revenus considérables et servir ainsi au développement. Et ainsi, on peut dégager des sommes considérables pour la préservation et la présentation des œuvres culturelles. Nous savons très bien par expérience au secrétariat de l'UNESCO que ces services gouvernementaux, même dans les pays les plus riches et les plus évolués, ont des ressources tout à fait insuffisantes. Par contre, Si on a fait rentrer ces monuments par le canal du tourisme dans le circuit du développement économique, à partir de ce moment-là, ils sont générateurs de richesses et il est naturel que vous utilisiez une partie des richesses dont ils sont potentiellement générateurs pour leur entretien, pour leur présentation. Et il s'agit, par des processus économiques et administratifs, de utiliser une certaine partie des sommes, des revenus, pour la préservation d'abord et la conservation. Je ne citerai qu'un exemple et j'en termine. C'est le cas de l'Iran. L'UNESCO a fait un accord avec le gouvernement iranien qui est le suivant. Quatrième plan quinquennal iranien qui va de 68 à 72. Le gouvernement iranien a réservé une somme de 60 millions de dollars pour la mise en valeur dans toute la partie occidentale de l'Iran. Sur ces 60 millions qui sont faits pour créer des routes, des hôtels, des choses qui n'ont rien à voir avec les monuments, mais qui permettent aux touristes d'aller voir les monuments, 4 millions sont réservés pour la préservation de ce que les touristes vont voir. Nous sommes les conseillers techniques du gouvernement iranien pour l'utilisation de ces 4 millions de dollars, et c'est nous qui fournissons les experts, les spécialistes. Vous voyez, au fur et à mesure que les années ont passé, vous voyez un éventail d'actions. D'abord, actions normatives, des règles et critères, qui continuent. Puis on y a ajouté une autre dimension, la promotion des idées, qui continue. Puis on y a ajouté l'assistance technique, fourniture d'experts. Puis, quatrième dimension, les campagnes. Et maintenant, normalisation de cette entreprise par l'insertion de la préservation du patrimoine culturel dans le développement. Vous avez pu voir aussi la signification de l'entreprise qui s'est enrichie. Et c'est là-dessus que je termine. Tout d'abord, quelle est la première idée, celle que vous trouvez dans la Constitution? C'est l'idée de maintien, c'est-à-dire c'est une fonction de mémoire. On veut préserver la mémoire de l'humanité. Jamais l'archéologie, l'histoire n'ont été l'objet d'un engouement aussi vaste, y compris parmi la jeunesse. Mais il y a une autre idée qui est apparue, c'est que le monument et les œuvres d'art font partie du développement, c'est-à-dire font partie de la vie économique. Ceci, c'est une idée tout à fait nouvelle du tourisme culturel. Et enfin, l'autre dimension, c'est l'aspect éthique de tout cela. En réalité, la chose la plus importante, c'est qu'on mobilise la conscience de l'humanité. Ce qui a eu d'extraordinaire dans l'affaire de Nubie et que le 22 septembre nous étreignait la gorge, c'était que 50 pays, je vous l'ai dit, étaient allés au secours de pierres qui n'étaient pas chez eux. Et que la plupart des gens n'avaient jamais vu et ne verront jamais. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que ceci appartenait à une famille dont ils faisaient partie, qui est la famille humaine. La notion la plus importante, c'est que c'est un patrimoine culturel de l'humanité. S'il y a un patrimoine, il y a une famille, donc nous sommes unis. S'il y a un patrimoine culturel de l'humanité, il y aura un jour une humanité. Voilà la dimension éthique de cette grande entreprise.
C'était les grandes conférences, préservation des sites et des monuments historiques par René Maheu, alors directeur général de l'UNESCO. Première diffusion sur France Culture le 9 mai 1969. Vous pourrez réécouter cette conférence en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».